Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous. La date du 1er juin est confirmée. C'est bien ce jour-là que le chef séparatiste du Polisario témoignera devant la justice espagnole. Il opérera à distance puisqu'il est hospitalisé sous une fausse identité dans un hôpital espagnol. Il aura à s'expliquer suite aux plaintes qui ont été déposées à son encontre pour torture et crimes contre l'humanité. L'Algérie, avec ce chiffre qui est publié par le Comité pour la libération des détenus, aujourd'hui le pays compte 174 détenus politiques et d'opinion, et ceci réparti sur 31 wilayas. La majeure partie de ces personnes ont manifesté pour le mouvement populaire du Irak, mouvement qui aujourd'hui est contraint par la pression policière et par cette circulaire du ministère de l'Intérieur qui exige que des autorisations soient émises avant même de manifester. 174 détenus politiques donc actuellement en Algérie selon le Comité pour la libération des détenus. L'État algérien essaie de trouver des solutions pour résoudre la problématique de l'approvisionnement en eau. Le ministère qui est en charge de cette question des ressources en eau vient d'annoncer un nouveau système de détournement de l'eau des barrages. L'objectif est de suppléer à des situations hydriques qui sont éminemment critiques, donc en ponctionnant dans des barrages. Et c'est par ce jeu d'équilibre que l'objectif est de limiter au maximum les coupures d'eau pour les consommateurs algériens. Sinon, toujours beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux et ainsi que dans la rue après ce déclaratoire tout à fait surprenant du président du Front de la Bonne Gouvernance qui a commis une déclaration sur les beautés algériennes qu'il a vu comparer à des fraises. C'est une parabole qui n'a pas plu du tout. Il s'est vu accusé de sexisme et de racisme même envers les fraisettes. C'est un mot ironique pour dénoncer ces propos qui ont été donc tenus par ce chef d'un parti politique. L'émotion est toujours grande sur les réseaux sociaux. Toujours ce jeu politique tunisien très énigmatique, sachant la difficulté des relations entre Kais Saied, le président, et le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Au moindre regard entre les deux hommes, les observateurs politiques saisissent leurs plumes pour essayer d'analyser ce qu'ils ont pu se dire. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Oui, nous en sommes sûrs, puisque cela s'est passé hier après-midi. Il y avait même le ministre de la Défense nationale tunisienne qui était là. Donc une réunion, mais il y a eu cette présence dans une même pièce de ces deux hommes qui ont un litige politique évident. Ils ne s'entendent pas sur la façon de conduire les affaires du pays. Alors la presse aujourd'hui se demande dans quelle mesure cette rencontre pourrait-elle sceller le début d'une réconciliation. D'autres pensent que non, pas du tout, puisque le président s'est inquiété de cette fake news, de cette information fausse qui lui a été attribuée, disant qu'il voulait procéder à l'éviction de son premier ministre. C'est un document totalement faux. C'est vraiment une information qui circulait sur Internet et qui était calomnieuse et diffamante, mais le fait est que le président l'a tout de même évoqué. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? La presse tunisienne s'interroge et pour l'instant ne trouve pas de mots pour qualifier ce qu'est actuellement la réalité de la relation entre le président tunisien et son premier ministre. Tunisie également avec ces éléments techniques mais qui sont importants et qui sont relatifs à la réouverture du pays. Ce sont des décisions qui ont été prises par la présidence du gouvernement, donc sont exemptées de mesures de confinement. Donc à partir du 1er juin, toutes les personnes donc, qui habitent à l'étranger, qui voudraient revenir en Tunisie, une fois que les doses de vaccins auront été prises, ils auront simplement à montrer une attestation qui aura été délivrée par les autorités officielles du pays de provenance et ainsi ils pourront passer la frontière. Également, les passagers ayant été contaminés par le Covid depuis plus de 6 semaines pourront rentrer tranquillement en Tunisie. Deux détails importants pour ceux qui prépareraient leur voyage vers les terres tunisiennes. Un nouveau remaniement ministériel en Mauritanie, c'est le troisième depuis 2019. La présidence a annoncé avoir limogé les ministres de la Santé ainsi que celui de l'enseignement supérieur. Donc au-delà des noms, on peut signaler l'arrivée d'un nouveau portefeuille ministériel qui est intéressant parce qu'il donne une indication sur l'orientation politique générale de la Mauritanie. C'est la création d'un ministère de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. C'est vrai que la e-administration aujourd'hui est une tendance lourde à la fois sur le continent africain mais également partout dans le monde. Un geste politique de Khalifa Haftar qui invite officiellement et de façon cordiale et bienveillante le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba ainsi que le chef du conseil présidentiel à venir assister à un défilé militaire pour commémorer le 7e anniversaire de l'opération Dignity, ceci à la base aérienne de Benina à Benghazi. Les festivités sont prévues le 29 mai. On peut signaler également en Libye que le ministre de la Santé essaye de faire le forcing pour obtenir la réouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest. Alors si les milices empêchent actuellement cette réouverture, le ministre de la Santé espère l'inscrire dans une démarche humanitaire. Il veut obtenir l'ouverture de la route quoi qu'il advienne, donc il inscrit cela dans une démarche humanitaire. Il demande à ce que l'Est et l'Ouest se mettent d'accord pour au moins laisser passer les ambulances, les médicaments et toutes les personnes qui sont en nécessité pour des raisons, encore une fois, humanitaires. Il tient absolument à ce que cette route soit ouverte et pour l'instant, les milices de part et d'autre s'y opposent ou en tout cas mettent énormément de grains dans la machinerie pour l'empêcher d'arriver à son terme.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Notre escale du jour nous emmène au Yémen. 4 mois se sont écoulés depuis l'arrivée de l'administration Biden. Washington qui a abordé le dossier yéménite avec une posture différente de celle de son prédécesseur, de M. Donald Trump. La posture de Biden a été d'engager une campagne diplomatique, d'adoucir les sanctions à l'égard des Houthis en cessant de les qualifier d'organisations terroristes étrangères, mais néanmoins exerçant des pressions sur des dirigeants Houthis de telle façon à ce que ceux-ci rejoignent les normes et les lois en vigueur sur l'échiquier international. Après 4 mois, l'Amérique est quelque peu déçue par la situation militaire. Il y a toujours ces affrontements autour de la ville de Marib qui résiste face à la pression Houthi, mais au prix de combats acharnés et d'une crise humanitaire qui est quasiment en suspens parce que l'on sait que cette région est déjà frappée par d'importants flux de réfugiés, mais c'est une région qui est éminemment convoitée par les Houthis si la ville de Marib tombe. C'est le dernier bastion gouvernemental qui viendrait à céder face à cette pression. L'option américaine était celle du dialogue, celle d'un processus politique visant à restaurer le dialogue engagé à Stockholm pour essayer de lui donner une continuité, pour essayer d'aboutir à un véritable cessez-le-feu, également aboutir à la réouverture de l'aéroport de Sanaa ou même le port de Hodeïda, de telle façon à ce que puisse transiter l'aide humanitaire qui est là, qui attend et qui ne peut pas arriver aux populations qui sont véritablement en souffrance. Il y a aujourd'hui une véritable déception de l'administration américaine suite aux gestes qui ont été faits envers les Houthis, tout ça en équilibre bien évidemment avec la coalition arabe qui essaye aussi d'obtenir un cessez-le-feu. Mais pour l'instant, les Houthis refusent totalement, un cessez-le-feu, deux, d'offrir des gestes d'apaisement, d'ouverture de canaux pour que passe l'aide humanitaire. La situation semble éminemment figée sur ce dossier yéménite. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.